s'appelle la Bible, qui s'appelle l'Évangile, la bonne nouvelle. Nous voulons préparer nos cœurs, ou encore mieux, te demander de préparer nos cœurs. Fais taire en nous, Seigneur, les voix discordantes, fais taire en nous le cri, le bruit du monde, parfois le bruit de nos vies aussi qui sont parfois bien agitées. Pour que nous soyons tout entiers, Seigneur, tournés vers toi, tout entiers tournés vers toi et vers ce que tu veux nous dire ce matin. Alors Seigneur, oui, que ton esprit vienne illuminer ces quelques lignes de la Bible que nous allons lire et ses commentaires. Illuminer, le mot, il est biblique. Tu es la lumière, Seigneur. Alors nous attendons que cette lumière éclaire nos ténèbres par ta parole. Amen.
Amen.
Alors ce matin, un texte très très court, trois versets. Alors pendant la prédication, il y aura d'autres passages bibliques, mais notre texte de départ est vraiment très court, mais dense. C'est dans Matthieu, au chapitre 13, Matthieu 13, les versets 44, 45 et 46. Matthieu 13, 44. Voilà ce que dit Jésus. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache de nouveau et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Ayant trouvé une perle de grand prix, il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Il s'agit de paraboles, n'est-ce pas? Alors c'est vrai qu'en parcourant l'ensemble des évangiles, sauf l'évangile de Jean, donc Matthieu, Marc et Luc, eh bien, on peut voir que Jésus a eu très souvent recours aux paraboles. Il s'agit là d'une technique de communication qui certainement a contribué à l'efficacité de sa prédication auprès des foules, enfin auprès de tous ses auditeurs. Je parle d'efficacité, je crois qu'en effet, il est dit dans l'Écriture que tous ceux qui l'entendaient, qui l'écoutaient, restaient frappés de son enseignement. Comprendre par là, frappé, étonné, stupéfait, émerveillé même. Hein, à un moment donné, que certains ont dit, on n'a jamais entendu de telles choses, mais dans le sens positif, bien sûr. Et il y a encore mieux pour prouver l'efficacité de l'enseignement de Jésus, c'est que 2000 ans plus tard, eh bien, les lecteurs de la Bible ressentent toujours ce même étonnement, ce même émerveillement, 2000 ans plus tard. Mais là, peut-être que sur le coup, c'était une chose, mais deux millénaires après, on est encore stupéfait de la sagesse des paroles de Jésus, etc., etc. Alors, parmi toutes les paraboles, il en existe une catégorie un petit peu à part, et d'ailleurs que Matthieu a regroupé en un seul chapitre, c'est le chapitre 13, et que dans la plupart de nos Bibles, on a intitulé « Parabole du royaume ». Ce n'est pas systématique, les titres ont été rajoutés, mais dans la plupart des Bibles, j'ai pu vérifier, on met un titre « Parabole du royaume ». Alors il s'agit bien sûr du royaume des cieux, on en a déjà un petit peu parlé, le royaume de Dieu. Ce royaume, il constitue sans aucun doute un sujet central, un sujet majeur de la prédication de Jésus. On peut dire que c'est le cœur de l'Évangile. Pour être même plus précis, plus juste, il faudrait dire que, finalement, pour Jésus, proclamer l'Évangile, c'est quoi? Ça vient de deux mots grecs, ça veut dire la bonne nouvelle. Évangile, bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? Eh bien, c'est l'annonce de l'avènement du royaume. Donc, Matthieu nous dit cela en écrivant que, tout de suite, après son baptême et sa tentation au désert, Hein, c'est au tout début de l'évangile de Matthieu. Il écrit « Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Matthieu 4, verset 17. Alors, naturellement, Jésus, il a pas prêché que ça. Si vous en voulez vous en convaincre, regardez par exemple le sermon sur la montagne, trois chapitres entiers, chapitres 5, 6 et 7 de l'évangile de Matthieu, où là, il y a une avalanche de commandements, de toutes sortes de recommandations, de lois. Mais si Matthieu a signalé que ce « repentez-vous car le royaume des cieux est proche », c'est bien parce que c'était le résumé de tout ce qu'il a pu enseigner, n'est-ce pas ? Par ailleurs, on lit aussi un peu plus loin, toujours dans l'évangile de Matthieu, « Jésus parcourait les villes et les villages, il prêchait l'évangile du royaume. » L'évangile du royaume. Nous voyons donc là que le royaume et l'évangile ne sont qu'une seule et même réalité. Cependant, le royaume de Dieu, ce n'est pas quelque chose de facile à comprendre, à cerner, à saisir. Lorsqu'on parle de royaume, qu'est-ce qui nous vient à l'esprit ? Il nous vient à l'esprit un territoire, un pays, enfin, un territoire. Quelque chose qu'on peut situer, hein, avec des frontières plus ou moins bien définies. Mais ce n'est rien de tout ça, le royaume de Dieu. Et Jésus le dit d'ailleurs clairement dans Luc chapitre 17, les versets 20 à 21. Le royaume de Dieu ne vient pas de telle sorte qu'on puisse l'observer, car, vous voyez, il est au-dedans de vous. J'ai un peu raccourci, mais il dit, on ne dira pas, voyez, il est ici, voyez, il est là, et voyez, il est au-dedans de vous. Alors là, la notion de territoire, les frontières, ça colle plus. Hein. Oui, voilà quelque chose de difficile à comprendre quand on débute dans la foi, notamment, et par la même occasion, quelque chose de difficile à expliquer. Et c'est sûrement la raison pour laquelle Jésus a multiplié les paraboles sur ce sujet. Parce que voyez-vous, les paraboles, j'ai parlé tout à l'heure d'une technique de communication, c'est une technique de communication, en tout cas une parabole, c'est efficace parce que c'est toujours une petite histoire que Jésus imagine, qui a pour but d'illustrer un enseignement ou une réalité spirituelle qui serait beaucoup plus compliquée à enseigner directement. Parce que la parabole, elle crée dans la tête, dans l'esprit des auditeurs, une image, donc plus facile à saisir que l'explication directe. Alors c'est un peu ce que nous faisons lorsque, plutôt que faire un long discours quand on veut expliquer quelque chose, eh bien nous prenons un papier, un crayon, et qu'est-ce qu'on fait ? On fait un dessin. Nous dessinons ce que nous voulons expliquer. D'ailleurs, on utilise aussi la formule « je te fais pas un dessin quand c'est simple à comprendre ». Voilà. Et bien la parabole, c'est un dessin, parce qu'elle crée aussi une image. Alors, une image mentale, et on se représente, alors, vous connaissez le bon samaritain, on le voit là, se pencher sur le blessé au bord de la route, le fils prodigue, on voit le père accueillir à bras ouverts son fils qui revient, etc. Une image. Et puis les gens, dont on fait partie, raffolent des petites histoires, n'est-ce pas, hein ? On lit des romans, on regarde des films, des histoires, on aime bien. Alors nous pouvons remarquer que ces paraboles sur le royaume, alors maintenant je parle bien des paraboles du royaume, hein, elles commencent presque toujours par une formule classique, le royaume de Dieu est semblable à ceci, à cela. Alors la suite qui suit, elle est très souvent inattendue. Très souvent inattendu. J'ai marqué quelques exemples. Par exemple, on découvre que ce royaume est comparable à un grain de moutarde. Je vous demande un peu. Ou du levain qu'une femme a introduit dans trois mesures de farine. Alors on parle bien du royaume. Hein. Un royaume qui est semblable à du levain. Mais... Ou encore un filet jeté dans la mer, etc., etc. Alors bien sûr que ce royaume, c'est ni un grain de moutarde, ni du levain, ni un filet. Mais avec l'ensemble de ces similitudes, parce que là, le royaume des dieux est semblable à. Hein, donc d'ailleurs, je crois que Matthias, il y a 2-3 semaines, il a prêché, il disait pas les paraboles, il disait les similitudes. Mais c'est ça exactement, similitudes. Eh bien, avec cet ensemble, nous finissons tout doucement par nous représenter mentalement la réalité de ce royaume, ce qu'il nous offre, comment nous pouvons y accéder, ou encore en quoi il nous est essentiel. Alors il serait intéressant, bien sûr, maintenant, de prendre une par une toutes ces paraboles pour voir qu'est-ce qu'elles ont à nous dire, n'est-ce pas? Mais bon, ben, on y serait jusqu'à ce soir, hein, donc voilà, on va faire court. Hein. On va se contenter des deux paraboles, en plus ça tombe bien, elles sont très courtes, des deux que nous avons lues. Alors ce sont deux paraboles hyper courtes. Hein. Vous vous rendez compte, la première elle tient en un verset. Jésus arrive à faire une parabole avec un verset. Et la deuxième, on l'a découpée en deux versets, mais enfin, elle tiendrait pareil en un verset. C'est pas pourquoi on en a fait deux avec la deuxième. Alors, Bon, elles sont très courtes, mais en attendant, elles nous disent quelque chose d'absolument essentiel, capital, vital, fondamental. Vous trouvez l'adjectif que vous voulez. Essentiel. Voici un homme qui trouve un trésor dans un champ. On peut imaginer que c'est un ouvrier payé pour labourer le champ. Et puis à un moment donné, où il est la charrue, il y a quelque chose qui bute. Il va voir, il gratte un peu. Ah, il y a une caisse avec des pièces d'or. Enfin, on peut imaginer, hein, c'est pas. Je ne tords pas la parole de Jésus avec ça. Alors, j'ai pas l'habitude de rédiger mes prédications, ce qui fait que je me perds sans arrêt. Voilà. J'ai dû la rédiger. Alors, il faut croire que cet homme est honnête. Parce qu'il pourrait prendre le trésor, l'amener vite chez lui, terminé, ni vu ni connu. Non. Il estime que pour que le trésor lui appartienne, eh ben, il faut qu'il achète le champ. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il rentre chez lui, il met en vente tout ce qu'il a. Et j'insiste sur le tout ce qu'il a. Et puis, il procède à l'achat du champ, et là, le trésor lui appartient. Bon, voyons maintenant la deuxième parabole. Alors, elle semble dire la même chose. On dit là, Jésus, il est un peu délayé, même si c'est très court, parce que, on verra quand même un peu plus loin qu'il y a une différence, hein, une petite différence entre les deux. Alors, cette fois-ci, c'est un marchand qui va lui aussi vendre tout ce qu'il a pour acheter une perle de grand prix. Qu'il vient de trouver sur le marché, et il lui faut cette perle, la plus belle perle qu'il ait jamais vue. On peut là aussi imaginer que c'est un marchand de perles, donc il en avait déjà, il avait amassé pas mal, il avait déjà un capital de perles, hein, qu'il achète, qu'il revend. Mais là, toutes ces perles qu'il a déjà collectées, elles n'ont plus d'intérêt à ses yeux, il vend, pour pouvoir acheter la perle de grand prix. Alors, à partir de ces deux paraboles, on comprend tout de suite qu'elles expriment avant toute chose, la valeur, l'immense valeur du royaume de Dieu, parce que le royaume de Dieu est semblable à un trésor ou une perle de grand prix. Une valeur incommensurable. Incommensurable, ça veut bien dire qu'on ne peut pas mesurer tellement que c'est immense. Rien ne saurait être aussi précieux que ce royaume pour les hommes. Pourquoi ? Je dis, qu'est-ce qui peut justifier le prix absolu de ce royaume? Eh bien, je vous donne une explication, c'est que pour moi, ce royaume a le prix du sang de Christ qui a coulé sur la croix. Et il nous est dit plusieurs fois dans la Bible, le sang précieux de Jésus-Christ. Pourquoi précieux? Ça veut dire qu'il a un prix infini. Alors on peut être intrigué par cette notion de prix, ou même d'argent, il est question d'acheter, de vendre, de payer, etc. Parce que on sait que l'acquisition du royaume des cieux procède de la grâce, n'est-ce pas? La grâce. Et par définition, la grâce, c'est gratuit. Sinon, c'est pas la grâce. Bon. Et même si la grâce n'était pas gratuite, le prix de la grâce n'a-t-il pas été payé sur la croix? Donc pourquoi Jésus nous parle d'acheter, de vendre tout ce qu'on a pour acheter? Bon, en réalité, ces paraboles ne cherchent pas à définir le prix en euros, en dollars, en ce que vous voulez, hein, bien sûr. D'ailleurs, c'est bien simple, ce royaume ne s'achète pas avec de l'argent, ni quoi que ce soit d'autre. Il ne s'achète pas avec notre bonne conduite. Ce royaume, il ne s'achète pas avec nos bonnes actions. Il ne s'achète pas avec tout ce qu'on peut faire de bien, notre obéissance au Seigneur, etc. Ces paraboles cherchent plutôt à nous interroger. Donc, elle nous pose une question sur ce que nous sommes prêts à céder ou abandonner pour pouvoir y entrer. Si l'homme de la première parabole n'avait pas vendu tout ce qu'il possède, il n'aurait pas pu acquérir le champ et donc le trésor. Si le marchand a pu s'acheter la perle de grand prix, eh bien c'est parce qu'il a lui aussi renoncé à garder tout ce qu'il avait accumulé jusque-là. Dans mon texte, vous voyez, j'ai souligné le tout. Tout. Pas une partie, pas une grande partie. Tout. À notre tour, le Seigneur nous invite certainement à faire le bon calcul, celui qui consiste à bien évaluer la valeur de tout ce qui fait nos vies, notre famille, notre situation, et même notre santé, ou notre bien-être, tout ce que vous voulez, la valeur de tout ça, en comparaison de la valeur du royaume des cieux. Dans le cas où toutes ces choses terrestres, évidemment, deviendraient un obstacle pour acquérir ce royaume. Alors là, chacun dans sa tête se dit, ah, ça j'y tiens aussi, et ça dans ma vie, ah, c'est quelque chose d'important pour moi. Si c'est un obstacle pour acquérir le royaume des cieux, réfléchis, mon frère, ma sœur, réfléchis. Les chrétiens persécutés, ils sont des millions hein, dans le monde. Je ne sais jamais, je retiens jamais. Mathias nous le dit souvent, hein, combien 380 millions. Bon, de toute façon, ce serait 380. C'est énorme. Les chrétiens persécutés nous montrent l'exemple des renoncements qui sont les leurs pour pouvoir entrer ou simplement rester dans le royaume de Dieu. Voilà des gens. Pourquoi ils sont exemplaires? Parce que voilà des gens qui, pour pouvoir être citoyens du royaume des cieux, ont renoncé à leur bien-être, à leur confort, à leur sécurité et parfois à leur vie. Rappelez-vous, si vous êtes lecteur assidu de la Bible, que Jésus n'a pas exprimé sur ce sujet que des paraboles. Nous pouvons lire dans Marc chapitre 10 ce que Jésus préconise à un jeune homme riche qui précisément veut acquérir le royaume de Dieu. Alors il ne dit pas comme ça, il dit qu'on peut faire pour hériter la vie éternelle. C'est pareil, la vie éternelle c'est le royaume de Dieu. Et que lui répond Jésus, va, vends tout ce que tu possèdes, ben, décidément, hein, Jésus ne change pas, hein, vends tout ce que tu possèdes, tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et quoi ?
Suis-moi.
Ah non, oui, suis-moi, oui, mais il dit, et tu auras un trésor, dans Marc il dit, et tu auras un trésor dans le ciel. Ben, ce trésor, c'est quoi ? C'est le royaume, hein, c'est le royaume de Dieu. Autrement dit, tu auras la vie éternelle, tu rentreras dans le royaume des cieux. Malheureusement, cet homme n'a pas été capable de faire le bon choix. A contrario, l'apôtre Paul, eh bien lui, il s'est appliqué à lui-même exactement le contraire. C'est-à-dire, le contraire dans sa réaction, hein, il s'est appliqué parfaitement cet enseignement. On lit dans Philippiens 3, versets 7 à 8, « Ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause du Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre. J'ai accepté de tout perdre. Et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ. » Et quand il dit gagner Christ, là aussi, on peut entendre gagner le royaume de Dieu. Tout perdre pour gagner le royaume. Une dernière remarque. Vous en avez parlé tout à l'heure, il y a une petite différence entre les deux paraboles, même si le message est plus ou moins le même. On peut penser que l'homme de la première parabole découvre son trésor par hasard. Bon, j'ai un peu extrapolé, je vous ai dit, il est en train de faire son boulot, il retourne le terrain, et puis du coup, il y a quelque chose de dur, ah, il y a un coffre, ah, il y a une pièce d'or. Bon, par hasard. On peut l'imaginer. Il ne le cherchait pas, mais peut-être il l'a trouvé en passant dans sa chambre. Il ne le cherchait pas. En revanche, le marchand, lui, il nous est dit qu'il cherche de belles perles. Lui, il est en recherche, vous voyez. Alors qu'est-ce que Jésus nous enseigne par cette petite distinction? Je crois qu'il nous dit que son royaume, avec lui, arrivant sur terre, son royaume s'est bel et bien approché de tous les hommes, tous, il s'est approché de tous les hommes, ceux qui le cherchent comme ceux qui l'ignorent. Et tous, sans exception, ont alors la possibilité de s'en emparer. Alors là, j'utilise un verbe qui peut vous paraître curieux. Tous les hommes donc, peuvent s'emparer du royaume des cieux. Je dis s'emparer parce que le terme n'est pas de moi, il est de la Bible. S'emparer du royaume. C'est quand même bizarre. J'ai trouvé dans Ésaïe, au chapitre 65, le premier verset, 65, Ésaïe. Voilà ce que dit, alors là on parlait de perles, eh bien j'en ai trouvé une, écoutez bien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. C'est ce que dit le Seigneur. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai envie de dire, à combien plus forte raison Dieu se laisse-t-il trouver par ceux qui le cherchent, n'est-ce pas? Voilà, ça c'était pour la petite différence entre les deux paraboles. Frères et sœurs, j'en arrive à ma conclusion, le royaume des cieux ne peut pas être plus proche de nous que ce qu'il est, puisque, Jésus nous le dit, il est au-dedans de nous. Difficile de faire plus proche. Pour autant, dans Matthieu chapitre 11, verset 12, nous lisons aussi quelque chose d'étrange. Depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à présent, c'est Jésus qui parle, depuis les jours de Jean-Baptiste, autrement dit depuis l'apparition du ministère de Jean-Baptiste, jusqu'à présent, le royaume des cieux est soumis à la violence, et ce sont les violents qui s'en emparent. Vous voyez le verbe que j'ai utilisé, ils s'en emparent. Et qui s'en emparent? Les violents. Il y a des moments où Jésus il nous perturbe de sérieux, là, hein. Parce que Jésus qui dit « Je suis doux et humble de cœur », attendez, les violents s'en emparent. J'ai toujours trouvé, jusqu'à ces derniers jours où j'ai préparé cette prédication, j'ai toujours été gêné par cette formulation. Ce sont les violents qui sont une violence. Et en fait, c'était tout simple. Enfin, pour moi, c'était tout simple. Ouais, il faut s'en emparer, même par la violence, mais cette violence, c'est quoi? Eh bien, c'est la violence qu'il faut se faire à soi-même. Eh, c'est une violence. Qu'il faut se faire d'abord à soi-même, c'est pas sur les autres qu'on est violent, c'est sur soi-même, pour renoncer à tout ce qui peut faire obstacle à cette acquisition du royaume. Et si vous réfléchissez bien, si vous avez fait la bonne démarche et que vous êtes citoyen du royaume, réfléchissez bien, vous avez régulièrement à vous faire violence pour renoncer à telle ou telle chose, même des bonnes choses, attention, mais qui vous empêcherait d'acquérir le royaume. Oui, se faire violence à soi-même pour renoncer à tout ce qui peut faire obstacle à cette acquisition. En langage parabolique, hein, renoncer à nos perles terrestres pour obtenir la perle céleste. Oui, alors que le Seigneur nous fasse cet ultime cadeau dans son immense amour pour nous, de nous montrer toute la beauté, toute la valeur de ce royaume d'éternité, afin que, sans amertume, sans regret, nous puissions lui dire « Me voici Seigneur, j'abandonne mes trésors de pacotille, hein, soyons clairs, à côté du royaume, bien sûr, j'abandonne mes trésors de pacotille pour entrer maintenant dans ton royaume. Amen. » Amen.